Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Yvonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Exploration psychédélique, une série de Marie Chartron réalisée par Diffy Mariani. Au départ de cette série, il y a le titre de cette émission, qui se devait forcément d'explorer la question et se souvenir de la fin d'été 1969, il y a 50 ans, de la grande fête folle de Woodstock. Et cette envie d'en savoir plus sur le début de cette histoire. Alors pour commencer, les personnages. Un chercheur suisse, des poètes et des psychiatres, à moins que ce ne soit l'inverse, un universitaire en liberté, Kerouac et Ginsberg, un collectionneur passionné, un couple de cobayes, Reagan, un ami sincère et Nixon. Ensuite le décor, un champignon, des échanges transatlantiques, le Golden Gate, la CIA, la guerre froide, des hallucinations, du prosélytisme, la contre-culture, la prohibition, la France aussi, une évasion, Alger, la fuite, l'ordinateur et des cendres dans l'espace. Aujourd'hui, premier épisode, on écoute un message.
This record is a message to young people, to people under the age of 25 and certainly to people under the age of 40. If you're over the age of 40, I'm not sure that you should listen to this record. What I'm going to say might make you mad.
Ceci est un message à l'attention des jeunes gens, des gens de moins de 25 ans, dans tous les cas de moins de 40 ans. Si vous avez plus de 40 ans, peut-être vaut-il mieux que vous n'écoutiez pas. Ce que je vais dire risque de vous rendre fou.
En terre psychédélique, la grande croisade de Timothy Leary. Marie Chartron, Diffy Mariani.
Nous sommes en 1966. Vous êtes américain. Le président Lyndon B. Johnson décide de renforcer les troupes au Vietnam. En 1968, elles atteindront 536 000 hommes. Des émeutes raciales éclatent à Chicago et à Cleveland. On pose la première pierre du World Trade Center à New York. John Lennon affirme dans une interview à l'Evening Standard que les Beatles sont désormais plus célèbres que Jésus-Christ. Le premier acid test est organisé par Ken Kesey au Fillmore, à San Francisco. Vous pouvez voir le premier épisode de Star Trek à la télévision.
Ralph, the time has come. The time has come.
Turn on. Tune in.
To go out of your mind.
Drop out.
Et la voix que vous venez d'entendre est celle du docteur Timothy Leary, qui jusqu'à la fin de la décennie déclamera sur la place publique trois lettres magiques. L, S, D.
Are you ready, Ralph? Are you ready to die and be reborn? No. No, first, you must be in a state of grace.
Mais avant de se plonger dans le grand trip américain, il faut revenir aux sources, dans les éprouvettes du docteur Albert Hoffman, à Bâle, avec l'historien des sciences Vincent Verroust.
Il faisait des recherches au laboratoire pharmaceutique Sandoz. Alors je dis Sandoz parce que les Suisses disent Sandoz, mais en général on dit plutôt Sandoz. Il cherchait un médicament qui agit sur la circulation sanguine. Il avait mené des recherches sur les alcaloïdes de l'ergot de seigle. Alors l'ergot du seigle, plus exactement, c'est un champignon parasite de certaines céréales. Donc on a appris à se méfier de ces champignons parasites. Mais par ailleurs, ils étaient utilisés en médecine populaire, en médecine traditionnelle, en Europe. Et donc il a synthétisé tout un tas de nouvelles substances, toute une série qu'il a numérotée. Et la 25e, sans faire exprès, il en a absorbé un petit peu. On ne sait pas vraiment comment, mais il s'est senti bizarre. Ça devait être le 16 avril 1943. Suffisamment bizarre pour qu'il décide de tenter une expérience sur lui-même avec cette substance. Et comme c'était quelqu'un de prudent et de raisonnable, il en a pris une dose vraiment très petite, 250 microgrammes. Eh bien, pour du LSD, c'est une dose assez forte quand même. Donc il a pris cette substance sur son lieu de travail, et là, il a senti que non, il ne pouvait pas rester là. Donc il est reparti à vélo, jusqu'à chez lui, où il a cru que ça y est, il était devenu fou à tout jamais, ou est-ce qu'il est peut-être déjà mort, et il avait des visions, et il était vraiment terrifié. Je crois qu'il y a un médecin qui est venu, qui lui a fait boire du lait, qui dit « Mais vous avez l'air d'aller très bien, sauf vos pupilles, mais sinon, tous vos signes vitaux, ça va hein ?» Il dit « Non, ça va pas du tout. » Et puis au bout d'un moment, je crois qu'il a commencé à profiter de l'expérience, quand il s'est habitué à cet état. Je crois qu'il a bien dormi, et le lendemain, quand il a visité son jardin, il avait l'impression d'être né à nouveau. Et il a été voir son patron, il a dit « Chef, je crois que j'ai découvert quelque chose. » Et en effet, il a découvert une substance hallucinogène nouvelle, active à des doses très 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 faibles. Et d'ailleurs, son patron ne voulait pas le croire. Il dit « C'est pas possible que ça agisse à des doses si petites. » Donc ils ont dû faire d'autres auto-expériences avant de dire « Ah mais si, il a raison. » Ensuite, le patron de Hoffman, qui s'appelait Arthur Stoll, avait un fils psychiatre. Et en effet, au bout d'un moment, ils ont envoyé ce LSD, donc sous forme soit de comprimés, soit de petites fioles, à des psychiatres du monde entier, en leur disant « Essayez ça sur vous-même, et puis essayez de voir si vous ne pouvez pas traiter vos patients avec. » Dépression, alcoolisme, anxiété, enfin, il y avait tout un catalogue d'affections pour lesquelles ils disaient « Essayez de voir si ça marche. » Et puis ça a fini par marcher, effectivement.
Pour parcourir cette histoire, il faut sillonner les États-Unis, de Boston à San Francisco, partir en voyage. Le nôtre sera immatériel et incertain. Il passe par les câbles qui courent au fond de l'océan, autrement dit par Skype, pour rejoindre le nord de la Californie.
Allô, vous m'entendez?
Martin Lee est journaliste et a coécrit en 1985 Acid Dreams, un livre sur l'histoire culturelle du LSD aux États-Unis,
allô, vous m'entendez?
De la CIA à la contre-culture.
Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la parution d'un rapport scientifique traitant des effets du LSD. Il a attiré l'attention d'un petit nombre de scientifiques, notamment des chercheurs américains. Et le docteur Max Rinkel, qui était associé à l'université de Harvard, a rapporté du LSD de Suisse en 1949, après s'être rendu au laboratoire Sandoz.
Il y a un chercheur en particulier qui a mené des recherches assez poussées, c'est un psychiatre britannique qui s'appelle Humphrey Osmond. Et c'est lui l'inventeur du terme psychédélique en fait. Il cherchait un mot pour qualifier ses effets psychiques et on voit dans la correspondance entre Aldous Huxley et Humphrey Osmond, qui se sont lancés comme une sorte de petit défi de poésie. Et un jour, Aldous Huxley lui a écrit « Pour rendre ce monde terre à terre sublime, prenez une pincée de phanérotim. » Donc il a inventé ce mot « phanérotim ». Phanéro, c'est montrer. Et tim, timus, ce serait l'esprit, qui montre l'esprit. Donc on imagine qu'Osmond a reçu ça, il dit « Ah, pas mal, il a dit « Moi aussi, je vais en faire une autre. » Pour sombrer dans les enfers ou s'élever dans les airs angéliques, prenez une pincée de psychédélique. Donc psyché, ce serait l'âme, et délique, délos, qui rend manifeste. Donc c'est une substance qui rend l'âme manifeste. Et voilà comment le terme psychédélique a été forgé. En 1956.
Timothy Leary was an up-and-coming academic. He was a rising star.
Timothy Leary était un universitaire prometteur, une étoile montante de la psychologie. Il était psychologue et au début des années 1960, il a décroché un poste de professeur à l'université d'Harvard, ce qui était très prestigieux. Mais c'était un libre penseur, un rebelle. Et il a été initié aux drogues hallucinogènes lors de vacances au Mexique avec un groupe de personnes bohèmes. C'était plutôt branché et chic d'expérimenter ce qu'on appelait les champignons magiques qui poussaient dans les montagnes mexicaines. De nombreux touristes se rendaient là-bas pour vivre cette expérience.
Et il s'est dit, tiens, je vais essayer. Donc il s'est rendu au Mexique Il n'est pas allé chez les Amérindiens, je crois qu'il a récupéré des champignons. Mais il a pris ça dans son hôtel avec piscine, avec ses amis. Et il a dit qu'il avait compris plus de choses sur la psychologie et sur le cerveau humain pendant ces 4 heures que pendant toute sa carrière de chercheur et toutes ses investigations en psychologie de ces 10 dernières années, ou plus que ça même. Ça devait être au moins en 58.
Boy, I'm happy to be here. This is a beautiful day.
Je suis heureux d'être ici. C'est une journée magnifique. J'aimerais que toute l'Amérique soit ici aujourd'hui. Je reviens juste de l'ancien monde. Le vieux monde, ce sont les prisons, les lieux où l'on ne peut être humain. Le poète Allen Ginsberg chante des mantras sur la scène du Golden Gate Park à San Francisco, où sont rassemblées plusieurs dizaines de milliers de personnes le 14 janvier 1967. Pour ce premier human being, être humain. Un rassemblement des tribus. Le LSD ne manque pas. Les diggers distribuent de la nourriture et veillent aux mauvais tripes. Les groupes de rock se succèdent, le Grateful Dead, Jefferson Airplane, et les orateurs, Richard Alpert, Gary Snyder, Alan Watts, et bien sûr, celui dont le visage commence à être connu à travers les États-Unis. Timothy Leary, habillé de blanc, collier autour du cou et fleurs sur les oreilles. Quitter le lycée, quitter l'université. Branche-toi, accorde-toi, largue les amarres.
Au début des années 1950, les neuroscientifiques qui étudiaient le fonctionnement du cerveau et les causes profondes des maladies mentales manifestaient déjà un intérêt tout particulier pour le LSD. Ils voyaient le LSD comme un outil de recherche très intéressant. Mais au même moment, la CIA, les services secrets américains, s'intéressaient elle aussi au LSD. Moins pour comprendre comment le cerveau fonctionnait que pour prendre l'avantage sur l'ennemi dans le cadre de ses opérations d'espionnage en pleine guerre froide. En 1951, des documents confidentiels parlent de cette potentielle nouvelle arme de guerre non conventionnelle. Cela relevait davantage de l'intuition au début, parce qu'ils devaient d'abord comprendre comment exploiter au mieux le potentiel du LSD. Ce qui était intéressant aux yeux de la CIA, c'était que la substance était extrêmement puissante à faible dose. Inodore, vous ne pouviez sentir ni l'odeur, ni le goût. Vous ne pouviez pas le voir. Donc c'était vraiment l'arme d'espion parfaite. On pouvait en donner à quelqu'un sans qu'il le sache, en le mettant dans sa boisson. La cible absorbait du LSD sans même comprendre qu'elle avait été droguée. Cela pouvait donner l'avantage à la CIA en cas d'interrogatoire, que ce soit d'une cible, d'un ennemi, d'un espion ou d'un agent double, dans n'importe quel cas de figure. La substance a bien été utilisée dans le cadre d'opérations, mais on ne pouvait pas parler de sérum de vérité classique, qui aurait contraint automatiquement la personne à dire ce que vous vouliez entendre, qui faisait cracher le morceau. Ils pensaient que le LSD fonctionnerait comme ça à l'origine, mais en approfondissant les recherches, ils ont rapidement compris que c'était un outil efficace qui s'apparentait davantage à un coup de massue asséné sur la tête. En clair, vous donniez du LSD à une personne, elle commençait à avoir des hallucinations effrayantes, sans comprendre ce qui lui arrivait. Elle était séquestrée et l'agent de la CIA menaçait de la maintenir dans cet état hallucinatoire, dans cet état de folie pour toujours, à moins qu'elle ne dise ce qu'il voulait savoir. L'autre manière dont la CIA utilisait le LSD, à ma connaissance, de manière limitée, mais toujours dans le cadre d'opérations, c'était en tant qu'agent pour discréditer le dirigeant d'un pays du tiers-monde, par exemple, comme Fidel Castro à Cuba, ou avant cela, Gamal Abdel Nasser, qui avait été pris pour cible en Égypte parce qu'il faisait partie du mouvement des non-alignés. Il ne voulait pas jouer le jeu de la guerre froide et choisir entre le communisme soviétique et le capitalisme américain.
Squad composed
De son côté, l'armée songe à larguer un nuage de LSD sur les troupes ennemies ou sur une ville entière pour en faciliter la prise. Essai de drogue incapacitante sur champ d'opération, film d'archives de l'armée britannique, 1964. En pleine forêt, 25 minutes après avoir absorbé du LSD dans un peu d'eau, le détachement de militaires qui effectuent des manœuvres commence à se détendre. Les hommes pouffent en se regardant, armes à la main. Un opérateur radio s'empêtre dans son système. Les lanceurs de roquettes n'arrivent plus à viser. Les soldats entrent en discutant dans le bois occupé par l'ennemi. 50 minutes après la prise de drogue, l'un des militaires se roule de rire au pied d'un arbre, tandis qu'un autre y grimpe pour nourrir les oiseaux. Le commando jette l'éponge.
La question intéressante, c'est de quelle façon l'auto-expérimentation avec le LSD a influencé leur travail. Parce que de toute évidence, cela ne les a pas transformés en manifestants pacifistes qui s'insurgent contre l'armement nucléaire. Ça n'a pas eu sur eux les effets qu'on a associés au LSD dans les années 60, lorsque cela faisait partie de la rébellion et de la contre-culture. Pourtant, il semble y avoir eu une consommation importante de LSD au sein de la CIA. Je crois que la CIA a sérieusement envisagé, à un moment, d'utiliser le LSD comme partie intégrante de la formation des agents engagés dans des opérations secrètes sur le terrain. Pas les employés de bureau, mais plutôt ceux qui exerçaient une fonction dans le monde de l'espionnage. Il y avait des réunions hebdomadaires entre différents départements de la CIA pour parler du LSD, de ce qu'ils en apprenaient, de ce que chaque département faisait avec la substance. C'était considéré comme quelque chose de vraiment très important. On n'insistera jamais assez là-dessus. Donc il y avait des réunions de ce qu'ils appelaient le comité des projets. Et au cours de l'une d'entre elles, en novembre 1953, le représentant du bureau médical de la CIA a suggéré que l'on devrait donner du LSD à tous les hommes de la CIA en formation. L'idée, c'était que si un espion capturé lors d'une mission tombait aux mains de l'ennemi, les communistes russes ou chinois utiliseraient le LSD comme le faisait la CIA. Ceci sans en avoir eu la moindre preuve, parce qu'à l'époque où ils discutaient de cette éventualité, les documents internes attestent qu'ils n'avaient pas d'éléments tangibles prouvant que les Soviétiques et les Chinois utilisaient le LSD en 1953. Pour modifier le comportement ou comme arme de contrôle mental, c'est une autre histoire. Ils avaient peur que ce soit le cas, donc ils étaient préparés à cette éventualité. Ils ont compris quelles étaient ses limites, qu'il était difficile à contrôler. Il semble que certains vivaient une expérience agréable, même si le LSD leur avait été donné à leur insu. Certains rapports indiquent que les personnes pouvaient devenir résistante à l'interrogatoire, qu'elle se sentait comme Dieu sur Terre, invincible. Des réactions complètement paradoxales. Bon, c'était pas une réaction fréquente, mais cela crée un dilemme pour la CIA. L'irrégularité de la chose, son absence de prédictibilité les a tout simplement rendus fous. C'est la dernière chose que vous voulez dans le monde de l'espionnage, l'absence de prédictibilité.
May we read silently or listen as the organist plays.
Lisons en silence ou écoutons pendant que l'organiste joue l'hymne 120.
We may not climb the heavenly steeps.
Nous ne pouvons pas gravir les pentes célestes pour faire descendre le Seigneur Jésus-Christ. En 1962, dans la chapelle Marsh de l'Université de Boston, le révérend Howard Thurman fait son sermon du Vendredi Saint. Walter Panker, étudiant en théologie de la Harvard Divinity School, a organisé une expérience sous la supervision de Timothy Leary, dans le cadre du projet de recherche sur la psilocybine de l'Université de Harvard. Tous les participants ont pris des substances hallucinogènes avant la messe.
Ils commencent à mener des investigations en psychologie sur ces substances psychédéliques. Et il va jusqu'à en distribuer à ses étudiants et les encourage à essayer.
Man is a fearful contradiction against himself.
Une des recherches importantes qu'il mène, c'est sur la relation donc, de l'expérience des hallucinogènes avec l'expérience mystique.
Élise Grand-Georges, historienne de l'art.
Ça, c'est une expérience qu'il mène auprès de religieux. Ce sont des religieux catholiques, bien souvent, ou évangéliques. Il leur fait consommer donc, des hallucinogènes dans le cadre d'un protocole scientifique. Il cherche à déterminer quel type d'expérience donc, ces individus peuvent vivre lors d'une prise d'hallucinogènes.
To the measure that a man does not know it.
À la même époque, Timothy Leary mène avec son équipe une étude sur le taux de récidive auprès de 32 détenus de la prison de Concord, dans le Massachusetts. Il s'agit d'évaluer si la prise de psilocybine, associée à une psychothérapie, favorise la réinsertion dans la vie sociale. D'après cette étude, oui.
Il en fait consommer aussi à certains artistes de sa connaissance. Il y a beaucoup de gens qui ont consommé des hallucinogènes à l'époque par l'intermédiaire de Timothy Leary. On peut penser à des gens comme Allen Ginsberg, Kerouac et d'autres intellectuels new-yorkais de la fin des années 50.
Et finalement, je crois, ses chefs lui disent « Mais qu'est-ce que vous faites ? Arrêtez cela !» ou en tout cas, arrêtez de faire une telle publicité. Et, bon, je crois qu'il a refusé, il s'est fait renvoyer.
Turn on, tune in, drop out.
Alors le slogan qui est turn on, tune in, drop out.
Nicolas Ballet, historien de l'art.
Leary, on le retrouve dans sa pensée dès 1966. Il le formule de manière à tenter de donner une substance un petit peu à cette utilisation du LSD en guise de déprogrammation de la vie psychique de l'individu dans son propre quotidien, c'est-à-dire branche-toi, donc turn on sur la contre-culture naissante de cette époque, mais également tune in, donc accorde-toi sur tes vibrations intérieures, toujours selon la pensée des vues de Timothy Leary, mais aussi laisse tomber, donc drop out à la fin du processus formulé par Leary, laisse tomber la société américaine et ses compromis. C'est une devise donc qui est inventée par Leary dans les années 60 et qui est donc synonyme de libération, de contemplation, mais aussi de contestation, dont le psychologue américain donne quelques explications dans son ouvrage de 1968 qui s'intitule « La politique de l'extase ». Donc il dira, là je le cite, « Se brancher, turn on, signifie contacter les énergies ancestrales et la sagesse ancrées dans notre système nerveux. Elle procure un plaisir et une révolution indicibles », écrit-il. Il continue par « s'accorder », donc « turn in », signifie exploiter et communiquer ses nouvelles perspectives dans une danse harmonieuse avec le monde extérieur. Et enfin, « abandonner », »,« drop out », signifie se détacher du jeu tribal. Donc là, on voit bien à travers ce texte que Leary tente de donner une dimension spirituelle et contemplative à la consommation de LSD afin de permettre une forme de transmutation cérébrale. Et le LSD est pour Leary une façon de tenter de s'émanciper de tout ce système qu'il connaît bien, étant donné que je reviens sur son parcours très académique. Il avait vraiment cette impression, lorsqu'il enseignait à Harvard, d'être, non pas un zombie, mais presque en se rendant tous les matins à son université pour donner cours et en rentrant chez lui pour déguster un martini, selon ses termes. Donc c'est vrai qu'il a tenté d'aller vers des formes d'expression qui différaient de ces comportements automatisés qu'on peut retrouver dans le quotidien d'un Américain moyen, en tout cas selon lui, dans les années 50 et 60. C'est la raison pour laquelle, quand il s'adresse à cette nouvelle génération, étant donné qu'effectivement, lui, il a déjà 46 ans quand il invente cette formule, il a terriblement conscience de la façon dont les standards et les sociétés de contrôle, d'ailleurs. C'est une façon pour Leary de revenir sur voilà, tous ces systèmes normatifs à combattre.
This is your body.
Can you flow with fire blood through each tissued corridor? Throb to the pulse of life.
L'histoire du LSD est fascinante à bien des égards parce qu'elle connaît des moments de rupture radicale. Au début des années 1960, l'histoire du LSD change et prend une toute nouvelle direction. C'est un peu une histoire d'apprenti sorcier, comme dans ce film de Walt Disney où l'apprenti sorcier s'émancipe et devient totalement incontrôlable. La CIA fait des recherches en laboratoire sur le LSD, elle perd le contrôle et la substance se diffuse dans la culture, dans le monde. Je pense que la CIA n'aurait jamais pu imaginer au début des années 1950 qu'une drogue qu'ils considéraient comme une menace à la sûreté de l'État, comme une arme de guerre non conventionnelle, deviendrait, 10 ans plus tard, la drogue dont on chante les louanges pour l'éveil spirituel, la libération culturelle et tout cela. Mais il n'y a aucun doute sur le fait que la CIA était très impliquée avec le LSD. Elle a soutenu et financé des recherches menées sur les étudiants de grandes universités comme Stanford ou Harvard, sur les esprits des plus brillants en quelque sorte. Les étudiants se présentaient pour être initiés au LSD parce qu'ils avaient répondu à une annonce proposant de gagner $20 en échange de leur participation à une expérience. C'est des expériences tout à fait légitimes qui ont prouvé que le LSD était sans danger. Allen Ginsberg, le célèbre poète de la Beat Generation, a été initié au LSD pour la première fois lors d'une expérience à Palo Alto, au nord de la Californie, non loin de l'université de Stanford. Donc cette histoire échappe à tout contrôle, et Timothy Leary est une figure centrale puisqu'il devient professeur à l'université de Harvard, où un certain nombre de chercheurs étaient impliqués avec la CIA et le programme MK-Ultra. Leary faisait donc partie de cette communauté, il a rompu avec tout cela pour faire quelque chose de totalement inattendu. Il a quitté l'académie, enfin, il a été forcé d'en partir, pour faire du prosélytisme, parce que tout le monde devrait prendre du LSD.
Après son renvoi de l'université en 1963, une nouvelle vie s'ouvre progressivement à Timothy Leary, qui, de conférences publiques en plateau télévisé, deviendra bientôt une star médiatique associée à la contre-culture naissante. Il quitte son costume sévère pour afficher son beau sourire en première page des magazines. Report from Millbrook, film de Jonas Mekas avec des images tournées en 1965. Le parvis d'une grande maison, au milieu des arbres. Un homme en kilt, c'est le docteur Richard Alpert, ancien collaborateur de Leary à Harvard. Un autre, petite moustache et grosses lunettes, c'est Ralph Metzner. Une petite fille saute sur un trampoline. Un singe traverse l'image. L'herbe est haute. La voix du shérif local, qui participera à une descente en 1966, accompagne les images. Timothy Leary écrit dans son autobiographie. Pour nous, l'été fleurissait paisiblement. Nous étions à peine conscients des orages qui se préparaient. Lyndon B. Johnson, candidat confiant à sa propre réélection, donnait l'ordre à l'aviation américaine de bombarder le Nord-Vietnam. La commission Warren déclarait que Jack Kennedy avait été tué par un seul assassin. Des émeutes raciales avaient lieu à Harlem et Philadelphie. Sur le front culturel, Marshall McLuhan publiait « Pour comprendre les médias », annonçant que le message, c'est le médium. L'essor de la psychologie humaniste était proche. On entendait de nouvelles musiques. Les Beatles chantaient « She loves you », Bob Dylan gémissait « It ain't me, babe » et les Beach Boys envoyaient vers l'Est leurs suaves vibrations californiennes.
So Timothy Leary, once he was fired from Harvard.
Après son renvoi de Harvard, Timothy Leary s'est retrouvé à Millbrook, dans l'État de New York. C'était un domaine très vaste, avec des bâtiments somptueux, des tourelles et environ 64 pièces. Il appartenait à William Mellon Hitchcock, l'héritier de la famille Mellon aux États-Unis. À l'époque, c'était une des familles les plus riches au monde, et elle l'est sans doute encore aujourd'hui. Donc, cette maison a été mise à la disposition de Leary. Apparemment, William Mellon Hitchcock avait déjà essayé le LSD, et il avait été très impressionné, donc il s'est engagé dans cette aventure surréaliste. Je sais pas vraiment comment appeler cela. Un laboratoire surréaliste qui est devenu un aimant culturel pour les artistes, poètes, musiciens de jazz et toute personnalité faisant le buzz. C'était en 1964, 1965, 1966. Et ils ont fait des expériences. Ils ont mené d'importantes recherches, des recherches non conventionnelles. C'était plus ou moins une fête débridée, mais d'un certain point de vue intéressante. De nombreuses personnes voulaient essayer le LSD. Finalement, la police a fait une descente et Millbrook a été fermé définitivement en 1967. Pour Timothy Leary, cela a été le début d'une longue série de déboires avec la police. Peu de temps après cela, progressivement entre 1966 et 1970, la loi sur les substances contrôlées a été adoptée. Elle indiquait que le LSD était illégal sur le plan fédéral, sans aucune valeur sur le plan médical et dangereux. Mais l'élément le plus important, c'est que le LSD, une fois proclamé illégal, a été associé aux tensions culturelles, aux fossés générationnels, à la contre-culture et au mouvement pacifiste. Le LSD était impliqué dans tout cela. Il était associé à tout cela. Alors, à chaque fois que quelqu'un attaquait le LSD, cela revenait à attaquer ce phénomène tout entier.
Pour la partie française, en fait, il y a eu en avril 66 une espèce de chasse aux sorcières, bon, les LSD qui touchait très peu de monde. Hein, donc le docteur Escoffier Lambiotte, en avril 66, a fait une série de 3 articles dans Le Monde qu'elle a appelé les poisons de l'esprit.
Aymon de l'Étrange, collectionneur.
Elle mentionne les loques humaines délirantes depuis des semaines sur les lits de l'hôpital américain. Bon. Elle estimait dans cet article aussi que 75% des étudiants du centre américain, boulevard Raspail, avaient pris du LSD. Bon, je ne sais pas comment elle a fait cette analyse, ça lui a été beaucoup rapproché par la suite. Et donc cet article du Monde a ensuite déchaîné la grande presse. Donc on a, vous voyez là, je cite, j'ai là sous les yeux le noir et blanc du 12 mai 1966. Le LSD 25 a fait son apparition en France. Alerte à la drogue qui rend fou. Et donc, on voit une photo d'un jeune homme avec les yeux exorbités. Sinon, il y a eu aussi le... Oui, même la presse sérieuse, Paris Match, dans son numéro du 7 mai 66. LSD, nouveau péril pour l'humanité. 10 pages au moins, avec un dossier sur Timothy Leary. Oui, il y a eu une grande émission à la télévision aussi, donc en octobre 67, l'émission 5 colonnes à la une, donc dans laquelle on voyait 2 cobayes français, un homme et une femme, qu'il met sous LSD. Et ensuite, cette émission, il y a eu un grand retentissement. Un journal qui s'appelait Le Crapouillot sort donc en octobre 67, tout un numéro spécial d'une trentaine de pages, intitulé « Une bombe atomique dans la tête, LSD », avec des caractères un peu grisés qui donnent un effet d'hallucination, quoi. Et un portrait en ovale de cette femme qui apparaissait donc à cette émission 5 colonnes à la une. Sous la photo, la légende, c'est « Ça fait mal, j'ai chaud, des fleurs, oh que c'est beau, il faut que je revienne, oh non, ça devient terrible ». Donc c'est la couverture. Donc il y a sur 20 pages, sous forme de roman photo, des photos prises lors des expériences de cet homme et de cette femme. 6 heures de voyage à travers l'extase et l'angoisse. Je ne sens plus du tout mon corps. Oh, c'est merveilleux ces petits tentacules, dit la femme. Si on repart, on ne peut plus s'arrêter, dit l'homme. Pourquoi tu veux t'arrêter? On va partir, Jean, tout est comme du velours. Ce vent, ma jupe s'envole, oh, je suis tombé. Les fleurs sont belles, violettes, tout est violet. Il y a une plante là, il faut que je me raccroche. Je ne peux plus partir, qu'est-ce qui me rentre dans la tête? Bon, voilà des phrases courtes que les deux témoins ont peut-être prononcées, ou assez, voilà, accrocheuses. Les hallucinations d'Hélène.
De nouveau, plein ouest par les câbles au fond de l'océan, puis à travers le Canada jusqu'à Vancouver, où la nuit est tombée, tandis que le jour se lève à peine en Europe.
Hi Michael.
Hi Marie.
Salut Marie. Attendez une seconde, j'allume la caméra.
Michael Horowitz est éditeur. Il vivait à San Francisco dans les années 60, où il était libraire à quelques encablures de la librairie City Lights, fréquentée par les poètes beat.
Go ahead.
Allons-y.
Ok. So, vous préférez parler la nuit?
I'm sorry.
Pardon?
Oh, that's me. Yes.
Ah oui,
yes, yes.
Vous parlez de moi. Oui, oui, je suis un oiseau de nuit, c'est vrai. Je préfère ça. C'est l'heure à laquelle je me réveille.
Okay.
Il a constitué à cette époque la bibliothèque Ludlow, dédiée à l'histoire des drogues, et fut l'ami de Timothy Leary de 1970 à sa mort en 1996.
Well, I was like most people.
Je faisais partie de ce mouvement de la contre-culture psychédélique hippie. Et c'est à cette époque que je suis devenu majeur. Nous connaissions tous Timothy Leary et nous nous intéressions au LSD en partie à cause de lui, de ce qu'il écrivait à son propos. Il était très respecté. Le gouvernement a commencé à prendre des mesures pour réprimer la culture des drogues psychédéliques. Ils se sont attaqués à lui parce qu'il était en quelque sorte le leader de ce mouvement. En 1969, Richard Nixon est devenu président et Ronald Reagan était gouverneur de Californie. Les jeunes les détestaient tous les deux et ils le leur rendaient bien. Ils avaient recours à la violence face aux étudiants et aux dissidents. Quelques mois avant, en 68, Timothy Leary avait été arrêté une fois de plus, pour la troisième fois, à Laguna Beach. Pour un motif ridicule, l'équivalent de 50 centimes de marijuana retrouvée dans sa voiture. La Cour suprême l'avait relaxé pour les affaires précédentes, et comme dans un premier temps, il était libre, en 69, il a décidé de défier Reagan, de s'opposer à lui dans sa course à la réélection au poste de gouverneur de Californie. Reagan a flippé parce que le système en place l'obligeait à débattre avec Timothy Leary. Il s'y refusait, il ne voulait pas lui donner de visibilité. Donc quand Leary a été finalement traduit en justice pour une quantité infime, presque invisible, de marijuana. Je ne sais pas combien valait le franc en 69, mais ce devait être environ 50 centimes. Le juge, qui était l'ami de Reagan, l'a condamné à 10 ans. 10 ans en prison, c'était le verdict. Et on l'a empêché de sortir sous caution.
1, 2, 3, 4
Il y a 50 ans cette semaine, Timothy et Rosemary Leary étaient au Bedin, à l'hôtel Fairmont Reine Elizabeth à Montréal. Pierre Trudeau avait autorisé les Lennon et les Leary à pénétrer sur le sol canadien malgré leurs ennuis pour possession de drogue. Timothy a dit à John Lennon qu'il allait être candidat au poste de gouverneur et lui a demandé d'écrire sa chanson de campagne officielle. Et cette chanson a été écrite la même semaine et dans la même pièce que la célèbre chanson « Give Peace a Chance », l'hymne du mouvement pacifiste « Donner une chance à la paix ». Cette seconde chanson s'intitulait « Come Together, Join the Party ». C'était pour la campagne de Tim. Rassemblez-vous, rejoignez le parti, rejoignez la fête. Mais quand le gouverneur Reagan a appris que Tim se présentait, il a fait annuler sa caution et l'a envoyé en prison pour qu'il ne puisse pas se présenter contre lui ni débattre avec lui. Alors John a utilisé cette chanson dans l'album des Beatles sous le titre de « Come Together ».
Instantané numéro 1. 20 mars 1970. Timothy Leary est incarcéré à la prison d'État de Californie à San Luis Obispo. On lui fait passer les tests psychologiques d'usage, des tests qu'il a lui-même élaborés 15 ans auparavant, alors qu'il était au sommet de sa carrière académique de psychologue. Se fait passer pour une personnalité très conformiste, casanière, grand intérêt pour le jardinage. Instantané numéro 2. Michael Horowitz et Robert Parker mettent en sécurité les archives de Timothy Leary. Les actions de soutien se succèdent. Instantané numéro 3. Septembre 1970. Timothy Leary s'évade de prison avec l'aide du Weather Underground, collectif de gauche révolutionnaire qui se bat pour les droits civiques et contre la guerre au Vietnam. Exfiltré des États-Unis, accueilli à Alger avec sa compagne Rosemary par Eldridge Cleaver, membre de l'International Black Panther Party. Remporte à cette occasion le titre d'homme le plus dangereux des États-Unis, décerné par le président Nixon en personne. Instantané numéro 4. Placé aux arrêts par Eldridge Cleaver pour comportement contre-révolutionnaire, départ pour la Suisse. Visite de Michael Horowitz, rencontre avec le père du LSD, Albert Hoffman, album 7-Up en collaboration avec le groupe allemand Ashra Temple. Instantané numéro 5. 1972. Danger en Suisse. Départ pour l'Afghanistan, qui n'a pas d'accord d'extradition avec les États-Unis. Trois agents attendent Timothy Leary à l'aéroport de Kaboul, lui confisquent son passeport et le renvoient quelques jours plus tard en Californie. Le président Nixon, embourbé dans le scandale du Watergate, se réjouit. Enfin, une petite victoire. 1973, retour à la case prison, hautement sécurisée, et cette fois-ci sans test de personnalité.
Pour gagner sa liberté, il est obligé de coopérer avec le FBI et le système de justice américain. Et ça, c'est une grande victoire pour eux. Ça retourne la contre-culture contre lui. Pendant des années, il était détesté par la droite. Maintenant, il est détesté par la gauche. C'est vraiment la période la plus difficile de sa vie. Mais lui croit qu'il peut se montrer plus rusé que le FBI. Ils attendaient de Leary qu'il leur fournisse des informations sur le Weather Underground, sur les pays étrangers où il avait séjourné, les réseaux internationaux de gauche. Ils pensent que Tim peut leur apporter des réponses. Et ils veulent aussi qu'il leur dise, avec ses mots, comment s'est passée son évasion et tout le reste. Il sait qu'ils ont les mêmes informations que lui. Donc il comprend qu'il n'a rien de plus à leur dire, mais il fait semblant de coopérer. Il n'a pas le choix. Et eux sont assez intelligents. Ils savent qu'il n'a rien à leur apprendre. Mais ils continuent de lui tirer les vers du nez. Tout le monde en parle, et plus personne ne veut l'aider. Parce qu'aux yeux de tous, il est la balance, l'informateur. Même s'il essaie juste de survivre, il risque de passer le reste de sa vie en prison, au minimum 38 ans, alors qu'il a déjà 56 ans. Dès qu'il a été libéré de prison, il a commencé une nouvelle vie. Il s'est réinventé, il est parti à Los Angeles et a débuté une nouvelle carrière de philosophe de la révolution informatique. Le même mois où Timothy Leary sortait de prison, Steve Jobs mettait au point dans son garage le Personal Computer, l'ordinateur personnel de Wozniak et Jobs. Et c'est devenu l'élément clé des 20 dernières années de la vie de Timothy, l'ordinateur personnel. Il a dit que lorsqu'il a pris conscience de ce qu'était le personal computer, le PC et la révolution informatique, il avait trouvé son nouveau LSD. Le PC était le nouveau LSD. Il pensait que le LSD était une chose qui vous emmenait partout, tout comme l'ordinateur personnel. Tout le monde pouvait être partout, se connecter et interagir avec des gens partout sur la planète. Il parlait de l'outil révolutionnaire incroyable qu'était l'ordinateur personnel, la communication informatique. C'est devenu le thème de ses livres.
Oh. Michael. Oh, I lost it.
I'm sorry. Connection.
Yeah, connection. Avec l'ordinateur, tout le monde peut être partout, mais je ne vous entends pas si bien, Michael Horowitz.
Wait.
I've lost you. I call again. Just one minute.
Certainly, definitely. Yes. Okay.
Bye-bye.
Je pense que cet intérêt qu'il a pour le LSD dans une capacité à altérer la réalité, il le retrouve dans la façon dont les jeux vidéo peuvent eux-mêmes, à travers une réalité fictive, présenter effectivement des modifications du quotidien d'un individu. En tout cas, modifier la perception qu'il aurait du réel, et donc de son propre quotidien, à travers la réalité virtuelle et la programmation informatique, tout simplement. C'est-à-dire être maître, selon, encore une fois, ses propres désirs et ses envies, de sa propre perception de la réalité. Et programmer un jeu vidéo, je pense que dans l'esprit de Timothy Leary, c'était une façon de revenir sur cette forme de réalité altérée. Et c'est quelque chose qu'on retrouve effectivement dans la façon dont Leary s'approprie les technologies de son époque pour mieux les détourner et les retourner contre elles-mêmes. Mais effectivement, là encore, ça a ses limites, étant donné qu'il y a toujours ce paradoxe entre une lutte contre une forme d'asservissement lié aux nouvelles technologies et en même temps une fascination par rapport à la façon dont elle fonctionne elle-même. C'est-à-dire qu'il a cette conscience dont l'évolution de l'information en tant que telle exerce un pouvoir sur les consommateurs de biens culturels, et la cyberculture, et donc l'émergence aussi d'Internet, les balbutiements du réseau Internet, des réseaux informatiques, représentent en fait une solution alternative pour reprendre le contrôle de l'information. Le cyberespace représente ces moyens alternatifs dont il ne disposait pas à l'époque, hormis par toutes ces expériences psychédéliques liées à l'air hippie qu'on connaît bien, le flower power et compagnie. Sauf que là, avec Internet, on a le projet d'un réseau alternatif qui peut se mettre en place et qui peut avoir des incidences sur l'ensemble du territoire américain et même de manière globale à l'échelle planétaire dans le monde entier, et qui peut mobiliser une communauté psychédélique ou post-psychédélique du moins à travers le monde. Je pense que c'est ce qui l'intéresse aussi dans le cyberespace, dans la cyberculture.
...1996, les adieux à la Terre. Timothy Leary est très malade et décide que sa mort sera une grande fête, conduite par ses soins. Sa maison ne désemplit pas pendant les 1 an et demi que dure sa maladie. Il fait un site internet, donne des interviews, écrit un livre, design pour mourir. Une partie de ses cendres quitte la Terre à bord d'une fusée spatiale, en compagnie de celle de 23 autres personnes, dont Gene Roddenberry, le créateur de Star Trek. Elles resteront en orbite pendant 6 ans, avant de se désintégrer en entrant dans l'atmosphère. Comment évalueriez-vous la qualité de cet appel ? Mauvaise.
Quand on se penche sur l'histoire du LSD et des différents groupes impliqués avec cette substance, on constate un engouement très important. Ils étaient tous incroyablement enthousiastes pour des raisons tout à fait différentes. Mais dans chaque cas, le LSD est devenu la clé d'une avancée capitale. Il y avait là l'idée que cette substance allait faire de grandes choses. Pour la CIA, elle allait révolutionner l'espionnage. Pour l'armée, elle allait inventer une nouvelle sorte de guerre. Pour les psychothérapeutes, elle allait être à l'origine de grandes découvertes thérapeutiques. Pour Leary, on allait parvenir à l'ère du Verseau. La substance allait rendre l'utopie possible. Ça ne voulait pas nécessairement dire que tout cela se réaliserait, mais dans tous les cas, le LSD a ouvert des possibilités. Donc je dirais que le LSD n'est pas une arme de torture angoissante, comme l'a prétendu la CIA, bien qu'on puisse l'utiliser de cette manière. Ce n'est pas nécessairement un agent thérapeutique, bien qu'on puisse l'utiliser de cette manière. C'est un amplificateur de possibilités, et cela signifie qu'il dépend systématiquement du contexte dans lequel il est consommé. Il est toujours dépendant du contexte. Tous, Leary, tout comme les membres de la CIA, ont commis la même erreur à propos du LSD. Ils lui ont attribué des propriétés intrinsèques, mais en réalité, il s'agissait de leur propre projection. Pour la CIA, c'était comme si la molécule, la structure du LSD, contenait de l'anxiété. Pour Timothy Leary, l'utopie se trouvait à l'intérieur de cette molécule. Ils ont projeté leurs propres désirs, rêves, possibilités sur la drogue, et c'est assez courant avec le LSD, probablement parce que c'est une expérience extrêmement puissante.
C'était la grande croisade de Timothy Leary.
Electric chain of remembrance.
Avec Martin Lee, Michael Horowitz, Élise Grand-Georges,
all those scenes,
Nicolas Ballet,
are yours,
Vincent Verroust,
to relive.
Aimon de l'Étrange, et les voix de Didier Lagarde, Jean-Luc Porraz et Rayanne Dinstag. Traduction Mélissa Foust.
All those memories.
Merci à Martin Witz et au Local 49.
Do you remember?
Documentation INA, Clary Monac.
All those scenes.
Coordination, Perrine Carvon, accompagnée de Marivonne Abolivier.
All those girls are yours.
Prise de son, Frédéric Kérou.
Do you remember?
Bernard Laniel et Yann Fressy.
Do you remember?
Mixage, Claude Niort. Un documentaire de Marie Chartron et Diffie Mariani. Thank you.
LSD, pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter en hallucinant, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Abolivier, Mathias Mégy et Annelise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur toutes les plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, deuxième épisode, les vertiges de l'esthétique psychédélique. Can you lie quietly?